Bonsoir Mia.
Bonsoir.
Eh bien Mia, de quoi souhaitez-vous nous parler ce soir?
Ben moi, j'ai un syndrome de Diogène et moi je voudrais savoir comment on en sort.
Ah, Mia, si vous permettez, on va peut-être prendre un petit instant pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est que le syndrome de Diogène. Voilà, donc Diogène, c'est du nom d'un philosophe grec de l'Antiquité. Diogène était un philosophe dit cynique qui prônait le dénuement et qui vivait, alors selon les versions, dans un tonneau ou dans une jarre. Et on attribue à Diogène des phrases assez cinglantes telles que le fameux « ôte-toi de mon soleil » qu'il a adressé à Alexandre le Grand. Voilà, pour ce qui est du syndrome de Diogène, donc en tant que symptôme, donc c'est un concept de psychiatrie américaine des années 70 qui repère que dans le comportement de certaines personnes, la tendance à des conditions insalubres ou, pas toujours mais parfois, ou à l'accumulation d'objets. Donc voilà au plus général, mais vous allez pouvoir nous dire, Mia, comment ça se traduit pour vous particulièrement.
Bah, moi j'ai ça, je vis dans un bordel monstre.
Oui.
Ça s'est déjà premièrement beaucoup aggravé ces derniers temps, et puis c'est surtout que moi je voudrais en sortir, mais vous voyez, chaque fois que je recommence à ranger, à tout ça, ben, je retombe tout le temps sur je vois en rangeant que j'avais déjà commencé, en fait, c'est parce que je me décourage. Pour ça, je voudrais qu'on m'explique comment en sortir, quoi.
Ça fait combien de temps que vous souffrez de ça?
Ben, moi, je pense que j'ai toujours eu, mais bon, là, c'est... J'ai toujours eu tendance à aimer garder les choses, tout ça.
Ça, c'était dès votre enfance, dès votre adolescence, aussi longtemps que vous remontiez, vous vous souvenez de ça?
Oh non, 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 ah ben non, non, bah, de toute façon, chez moi, hein, il n'était pas question de... Quand j'étais avec mes parents, il n'était pas question de faire à mon idée, donc bon... Ouais.
Donc là,
non,
vous
rangiez. Je suis chez moi,
D'accord. Et vous vivez seule?
Non, je suis mariée.
Oui.
Bon, mais enfin, je vis seule quand même... Si on peut dire, étant donné que bon, nous sommes exploitants agricoles et on est dans une ferme isolée et on n'a pas d'enfants.
Oui.
Donc, on est en difficulté depuis de nombreuses années, donc on n'a pratiquement pas de rapports sociaux, quoi.
Et entre vous, ça se passe bien ou chacun vit dans un côté de la maison?
Avec mon mari?
Oui.
J'en ai marre qu'on me ramène tout le temps mon mari. Moi, je vais au CMP depuis plusieurs années. Alors là, me plaindre de mon mari, là, ça y va. Mais m'aider sur Diogène, là, je vois pas bien la réponse, quoi. Non.
Ma question, Mia, n'était pas sur votre couple. C'était de savoir si à l'intérieur de votre maison, vous aviez un espace propre ou si c'était un lieu que vous partagez avec votre mari.
Mon mari, il est éleveur laitier. Il travaille 100 heures par semaine. Donc, il travaille, il dort. Voilà. C'est ça la réponse, quoi.
Oui, oui.
Et donc, il peut pas beaucoup m'aider, d'autant plus que moi, je me suis... là, pourquoi ça s'est beaucoup aggravé? Parce que je me suis effondrée il y a 5 ans. Vraiment effondrée. Et que donc, j'ai déjà envie de pleurer. Et que donc, tout le boulot lui a tombé sur le dos. Donc, voilà, quoi.
Oui.
Il a dû faire face à tout, quoi. Le boulot sur la ferme qui est quand même très conséquent.
Oui, là, il ne s'agit pas de manquer
un seul
jour.
Bon, là, moi, je commence à peine à rebosser depuis peut-être 6 mois, un an, peut-être. Mais tout doucement, je ne fais pas autant qu'avant, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Pourquoi vous vous êtes effondrée?
Mon père est mort.
Oui.
Et puis, ma famille, j'ai eu l'impression de tomber de l'Empire State Building, moi. Parce que ma famille m'a traînée en justice pour que je puisse pas acheter la maison de mon père.
Oui.
Et puis alors, je sais pas pourquoi tout s'est arrêté pour moi, mais d'un coup, quoi.
Oui, oui.
J'ai pu ouvrir une lettre, je suis restée prostrée dans un coin, quoi.
Oui, quand vous dites que oui, c'est comme si un building était tombé sur vous, ça a été un choc.
Jamais j'aurais cru que mes frères et sœurs m'auraient fait ça, quoi.
Vous...
Pour moi, on traîne pas sa famille en justice, quand même.
Puis vous étiez dans un moment de deuil.
Oui. Mmh. Oui. Puis mon père, ça se passait pas bien avec lui depuis longtemps. Et puis j'ai trouvé des choses dans la maison sur mon grand-père qui m'ont beaucoup bousculée.
Oui.
Enfin, tout s'est mélangé, quoi.
C'est ça. Ça fait énormément de choses. Donc, le deuil, la violence du procès. Vous avez découvert des choses, bon, que vous ne connaissiez pas manifestement, qu'on vous avait pas dites.
Oui, sur mon grand-père qui a été inquiété à la libération. Donc, je pense qu'il a eu des accointances avec les nazis. J'ai trouvé un papier qui m'a bouleversée. Et c'est pareil, je ne l'ai pas dit à mes frères et sœurs, je ne sais même pas pourquoi. J'ai pris ça sur moi.
Et avant que vos frères et sœurs ne vous traînent en justice, comme vous dites, vous aviez une entente convenable avec eux?
C'est-à-dire, moi, j'ai quitté la maison. Je ne sais même plus exactement. Parce que moi, je disais tout le temps 17 ans. Et une fois, mon frère m'a dit, ça ne peut pas être 17 ans. T'as eu ton bac, donc je pense qu'effectivement j'ai eu mon bac, donc ça devait être un petit peu après. Mais en fait c'est sur un malentendu, parce que mon père était remarié et ma belle-mère m'a dit que mon père voulait que je me barre, et comme j'étais tellement fâchée contre lui, mais c'est ce que j'ai découvert maintenant à partir de choses fausses, et ben je l'ai cru et je suis partie comme ça, sans rien demander, sans... Et donc du coup mes frères et sœurs, oui, je suis quand même assez éloignée d'eux.
Oui.
Depuis quand même 40 ans. Mais moi, il me semblait que j'avais fait ce qu'il fallait pour garder quand même du lien. Malgré que je ne vis pas du tout comme eux, je faisais bien attention à aller aux fêtes de famille, à leur faire des cadeaux, même quand je n'avais pas de sous. Enfin, il me semblait que qu'il y a ça aussi. C'est que moi, je n'ai pas du tout le même parcours de vie qu'eux. Alors, ils me trouvent. D'abord, ma sœur devant le notaire, elle a dit ma sœur a rien fait de sa vie, ça sera toujours pareil.
Qu'est-ce que c'est dur.
Moi, je ne sais même pas pourquoi qu'elle a dit ça.
Parce que vous dites que vous travaillez avec votre mari à la ferme, pas vous.
Oui, mais je l'ai rencontré tardivement, mon mari. Ça fait 20 ans que je connais.
Oui.
Et avant, j'ai fait beaucoup de petits boulots à droite à gauche. Alors que mes frères et sœurs, si vous voulez, ils ont fait des études, ils travaillent, ils sont sérieux, comment.
Vous vous sentiez rejetée par eux?
Bon, c'est vrai qu'avant, je savais qu'ils ne trouvaient pas que c'était bien ce que je faisais. Mais enfin, je pensais qu'ils me respectaient, Je pensais même qu'ils m'aimaient bien, et surtout mon frère, ça m'a le plus détruit, c'est mon frère. Parce que moi j'ai beaucoup d'écart avec ma sœur, par contre mon frère, on a très peu d'écart, on était tout petits ensemble. Ça m'a beaucoup choquée qu'il se ligue avec ma sœur contre moi.
Contre
quoi.
Vous, oui. Et votre père, vous lui avez reparlé? Vous dites que vous êtes partie brusquement de chez vous. Comment ça s'est passé
père,
après avec lui?
Je suis jamais arrivée à lui reparler à mon père, alors...
Et lui...
Non, j'avais dit que je le ferais, puis bon, maintenant il est mort, comment?
Et lui, donc...
Mais c'est vrai, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé un peu. J'avais envoyé des lettres ou j'avais essayé de lui demander qu'il me raconte des choses, mais... moi, je me rappelle une fois, il m'avait envoyé une lettre comme quoi... je devais pas lui... Parce qu'avec mon père, il fallait toujours faire semblant. Semblant comme si on était une famille unie. Bon. Donc, il fallait faire que j'écrive à ma belle-mère, oui. Que je détestais, comme si c'était ma mère, quoi. Parce que j'avais écrit une lettre à mon père, à lui.
Oui.
Ça, il voulait pas.
Ça, c'était ça, c'était combien de temps après être partie de la maison?
C'était après être partie. J'étais adulte depuis bien longtemps.
Et au moment où vous êtes partie, Mia, il a laissé faire? Il a pas essayé de vous retenir, d'entrer en contact avec vous, de s'expliquer?
J'étais allée chez ma grand-mère et je sais qu'il a téléphoné à ma grand-mère pour savoir et... Moi, je me rends dire, oui, il sait bien ce qu'il a fait, il sait bien ce qu'il a fait, mais maintenant, je me rends compte qu'il savait pas, en fait. Je pense que sa femme l'a manipulé, quoi. Enfin, c'est même certain, hein.
Et votre mère, elle était où à ce moment-là?
Ma mère, elle est morte quand j'étais petite.
Ah. Vous aviez quel âge?
Quand j'avais 3-4 ans.
Oula.
Et voyez, il y a ça aussi qui est réapparu, c'est que mon père avait déjà été remarié une première fois.
Oui.
Et cette dame est morte aussi. Et moi, cette femme, on m'a empêché de l'aimer parce qu'on me disait, on n'a qu'une maman, enfin des conneries comme ça. Parce que moi, comme je dis toujours, ma mère biologique, c'est une fiction.
Vous ne pouvez avoir aucun souvenir, je suppose, vous n'avez pas de souvenir d'elle, direct.
J'ai deux souvenirs, deux, trois souvenirs, mais très peu, quoi.
Oui, oui.
Et en fait, j'ai découvert, toujours dans la succession, des documents qui venaient de ma belle-mère. Je me suis rendu compte qu'on m'avait dit que des conneries sur elle, que des conneries, quoi. Et entre autres, il y a qu'elle écrivait très très bien, parce que moi j'adore écrire, donc on me l'a toujours décrit comme une idiote finie.
Donc là, vous parlez de votre première belle-mère, celle avec à laquelle vous aviez commencé à vous attacher.
Oui, et puis il y a l'endroit où l'écrit que mon père, donc jeune mari avec elle, lui présente ses enfants, donc, puisqu'il était veuf.
Oui.
Et où elle dit qu'elle est attirée par moi, et que moi je vais vers elle, et oh, ça m'a bouleversée quand j'ai lu ça.
Ah mais oui.
Je me rends compte qu'on...
Qu'elle vous a aimé, qu'elle vous a aimé.
Voilà, oui, voilà.
Ah oui. Mia, qu'est-ce que vous avez connu de choc dans votre vie ? Parce que ce qui me frappe dans ce que vous commencez à nous confier, c'est que ça doit être très difficile d'avoir pour vous des repères. Vous avez perdu votre mère très jeune, vous avez aimé une femme qui vous a aimé aussi, votre première belle-mère. Et vous aviez quel âge quand elle a disparu ?
Je pense à peu près 15 ans ou 16 ans peut-être.
Elle était malade ou qu'est-ce qui s'est passé?
De toute façon, ils sont mortes toutes les... La même maladie que ma maman, ils sont mortes du cancer toutes les deux, mais ma mère est morte très jeune.
Oui. Oui.
Enfin, ma mère biologique, je veux dire, quoi.
Donc là, vous avez beaucoup de souvenirs avec votre première belle-mère, entre vos 4 ans et vos 15 ans.
Ben oui, mais vous voyez, on m'avait appris à la détester, donc je suis toujours en train de... Je regrette maintenant, je peux
dire. Oui, vous sentez coupable?
Je n'ai pas été ma manie, en tout cas.
C'était très difficile. On ne peut pas demander à une petite fille et une toute jeune fille d'avoir du discernement si c'est qui, d'ailleurs, discréditer votre belle-mère.
Comment ?
Qui critiquait votre belle-mère et vous amenait à la détester ?
Ma grand-mère et ma sœur aînée, parce que ma sœur, elle est beaucoup plus âgée que moi. Et elle ne vivait pas avec nous, elle n'a pas voulu vivre avec nous. Elle est partie vivre avec ma grand-mère. Et...
Oui.
C'était l'organisation de la détestation et de ma première belle-mère et de mon père. Parce que mon père aussi, je me rends compte, c'était loin d'être le salaud qu'on m'a décrit. Hein. Maintenant, je le vois. Bon, je sais bien qu'il avait un petit côté un peu raide, quoi.
Oui.
Mais bon, c'était aussi des gens de cette génération. C'est pas des gens qui. Bon, c'était pas pareil quand même, les familles avant.
Et entre vos 4 ans et vos 15 ans, vous aviez des bonnes relations avec votre père ?
Ben non. Ah non, non, moi j'ai toujours détesté mon père. Enfin, oui, il me semble. Enfin bon, autant que je me souviens, donc peut-être pas petite fille, mais. Ah ben non, c'était le sport national même. Enfin, maintenant ça me fait rigoler, mais je faisais vachement de provoques, tout ça.
Donc vous viviez avec votre...
Il y avait plus de temps quand j'étais adolescente que de choquer, par exemple. Quoi. Donc,
Vous viviez avec votre père et votre première belle-mère,
oui.
Et vous étiez dans une ambiance de haine, d'une certaine façon, puisqu'on vous conditionnait à détester votre belle-mère et, par suite, à critiquer votre père aussi.
Oui. Et... C'était une drôle d'ambiance.
Ah, mais oui.
Il n'y avait personne qui venait chez nous. Déjà, moi, je vais au CMP, la psychologue elle m'a dit, c'est quand même curieux, vous me dites que vous avez Diogène, mais vous me parlez de votre papa, c'est pareil, il n'y a personne qui venait chez vous. Bon, mais il n'y a pas le bordel, par contre, c'était propre. Mais c'est vrai que c'était un tombeau, là-bas.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand votre première belle-mère donc, a disparu ? Elle a été malade, et votre père est resté seul un temps avant d'épouser votre deuxième belle-mère ?
Oh, pas très longtemps, hein. Mon père, il se remarie tout de suite.
Oui, oui.
Apparemment, c'est le genre de mec qui reste pas tout seul, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas exactement combien de temps, mais pas très longtemps.
Pas longtemps.
Enfin, faudrait que je réfléchisse, mais non, pas très longtemps.
Et dans l'intervalle, quand il a été veuf, donc pour la deuxième fois de votre première belle-mère, vous étiez à la maison, vous vous êtes un peu rapprochés ou c'était toujours aussi difficile avec lui ?
Oh ben, moi, j'étais adolescente, hein, donc j'étais déjà pas plus souvent à la maison. J'essayais d'être souvent chez ma grand-mère, parce qu'à l'époque, j'aimais bien ma grand-mère. Maintenant, je me rends compte que ma grand-mère aussi a participé. C'est elle qui disait, on n'a qu'une maman. Tout ça. Enfin, maintenant, ça me paraît monstrueux. Monstrueux.
Oui, ça l'est. Alors, c'est...
J'ai entendu des fois des témoignages dans la libre antenne, il n'y a pas très longtemps, mais enfin, quand même quelques mois, un mec qui revient à 35 ans parce que c'était le géniteur d'un enfant et qui dit mais enfin c'est moi le vrai père, mais oh, j'aurais pu casser tous les murs quoi. Quoi, le vrai père, c'est ça. Enfin, le vrai père, c'est celui qui est là. Moi, ma vraie maman, bah, c'était cette femme qu'on m'a appris. Ma mère biologique, comme je dis maintenant, c'est une fiction.
Mais oui, et puis ce n'est pas que la biologie qui fait la maternité et la paternité. Ce qui fait la maternité et la paternité, c'est comme vous le dites, c'est le soin quotidien, c'est l'amour partagé jour après jour, ce sont les années de vie ensemble. Et vous, en tout cas, on ne vous a pas permis de choisir votre maman en la personne de cette première belle-mère. Oui. Et ensuite, donc, quand la deuxième est arrivée, là, il n'a pas été question d'amour entre vous et elle.
Bah non,
vous étiez adolescente.
Elle m'a foutu à la porte, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Bon, il faut dire, j'étais dans une époque où j'étais très remontée contre mon père, donc n'importe comment, c'était pas bien difficile ce qu'elle a fait. Hein. Enfin, je me rends compte de ça a posteriori, quoi. Mais...
Oui. Est-ce que ça vous semble juste de dire que du fait de toutes ces... Oui, de toutes ces manipulations, bon, conscientes ou inconscientes, au fond, vous n'avez jamais pu vous appuyer sur votre père. Votre père n'a jamais été un repère pour vous. Est-ce que c'est juste de dire ça?
Ah, je sais pas, je me dis, il nous a élevés quand même.
Oui, il vous a élevés, mais dans votre esprit... Vous l'aviez...
C'est sûr que je ne pouvais pas lui parler. Je ne pouvais pas lui parler de choses importantes.
Oui. Et est-ce que vous l'aviez discrédité dans votre esprit au point de penser que ce n'était pas vraiment votre père ou pas vraiment un père pour vous? Est-ce que ça allait jusque-là?
Oh non, je pense que... C'est... Non, ça, j'ai toujours pensé que c'était mon père. D'abord, je sais que c'est mon père. Oh non, c'est... non, non. Non, mais que je ne m'entendais pas avec lui, quoi.
Oui, oui. Et ensuite, donc, vous êtes partie, vous avez quitté la maison, donc vous dites que vous avez gagné votre vie. Vous étiez indépendante, vous avez fait des petits boulots, comme vous dites.
Oui, j'ai quand même, je trouve, jusqu'à présent, toujours été bien dégourdée. D'ailleurs, même sur la ferme, ça me sert encore, parce que,
oui.
Entre autres, quand on est en difficulté, bah, c'est bien commode de savoir négocier. De savoir
bien sûr, bien sûr.
De savoir s'arranger avec les gens pour... Bah, trouver des moyens de payer notre dette petit à petit et continuer à travailler.
Mmh. Alors, dans ce contexte, donc, quand est-ce que ça a commencé pour vous, l'accumulation d'objets, le désordre par rapport à ça? Donc, vous avez pris votre... vous êtes partie. Donc, je suppose que vous êtes d'abord allée chez votre grand-mère et ensuite, quand vous avez travaillé, vous avez pris votre propre logement, c'est ça?
Oui, j'avais un logement. Bah, d'ailleurs, c'était à ma grand-mère, mais enfin, bon, j'étais indépendante.
Alors comment ça a commencé? Vous vous souvenez de ce qui se passait dans votre tête, de vos sentiments et des premiers symptômes?
Moi, je pense que j'aime pas jeter parce que j'aime bien parce que j'avais des velléités d'écrire des livres, tout ça, donc je gardais des tas de choses, des articles de journaux, et même je faisais des, par exemple, je lisais un livre, je faisais des commentaires, je faisais des fiches, tout ça. J'avais beaucoup de livres, j'aime bien la brocante, j'aime bien les... Bon, je sais pas comment vous dire, il y a un moment où ça va, il y a un moment où ça tombe dans le... Mais bon, avant là, ce qui s'est passé il y a 5 ans, ça n'a jamais été comme j'ai fait ici. Hein.
C'est ça. En fait, ça a augmenté avec l'état de choc.
Mais je pense que, disons que je pense que j'avais un peu comme une base, quoi, pour que ça fasse ça.
Oui, vous le dites, vous aviez du mal à jeter. Est-ce que pour vous, vous séparer d'objets, ça provoquait de l'angoisse chez vous?
Ah bah oui, surtout si on, si on le fait, par exemple, mon mari, il essaie de virer des trucs en douce, alors là, ça me met dans un état. Là.
Oui, mais ça, c'est absolument pas à faire. Est-ce qu'en fait, ce que vous viviez, Mia, dans votre esprit, c'est que les objets, c'était comme une partie de vous, comme quelque chose qui... Oui, je peux pas dire autrement.
Moi, je pense que ça me ramène à ma famille, quoi. C'est...
Oui.
Des vieilles choses, des...
Parce qu'au fond, dans votre esprit, tous ces objets dont vous ne vous séparez pas, ce sont des parties de vous que vous gardez.
Oui, peut-être.
Presque.
En fait, j'aime bien, je petits, par exemple, ça c'est l'armoire qui était là chez ma grand-mère, le truc qui était là. Enfin bon, moi, on me laisserait faire, je garderais tout, quoi.
Oui. Oui, c'est les objets de votre grand-mère, mais c'est aussi ce qui est une partie de vous au sens propre. Parce que si vous dites que ce sont des choses qui pouvaient, des bouts d'écriture ou des choses qui pouvaient vous aider à écrire, là c'est encore plus proche que vous, c'est vraiment de vous, c'est vraiment des parties de vous.
Oui. Ah bah oui, bah oui. Oui.
Parce que Mia, ce qu'on ne peut pas faire dans un syndrome comme le vôtre, c'est séparer quelqu'un de force de ses objets. Parce que ça génère une angoisse abominable, comme vous avez dû le vivre. Donc ça, c'est en aucun cas la solution.
Si seulement quelqu'un pouvait l'expliquer à mon mari.
Oui, mais ça, vous savez, quand vous avez... Parce que c'est pas simplement une question de désordre, c'est pas juste une question pratique. Votre mari n'a pas une femme qui a un problème de rangement. Votre mari a une femme qui a un problème d'angoisse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas autour de vous des objets que vous vivez comme des prolongements de vous, que vous vivez comme des parties de votre personne propre, si vous les avez pas ou qu'on vous les coupe, ça génère une angoisse gigantesque. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Oui. Alors ça, déjà, c'est essentiel que votre mari le comprenne. Vous êtes suivi ?
Oui, je suis.
Vous avez parlé d'un CMP, c'est ça. Donc, au CMP, vous voyez un ou une psychologue, c'est ça ?
Je vois une psychologue. Et au début, je voyais la infirmière psychiatrique, mais j'ai mis plusieurs années à oser leur dire, alors.
Mais ça, pourtant...
J'ai vu le psychiatre aussi, quelquefois, parce que j'ai aussi des phobies.
Quel genre de phobie ?
Je ne conduis plus les voitures, j'ai des crises d'angoisse épouvantables, je ne conduis plus du tout la voiture.
Oui. Bah oui. Oui. Vous souffrez...
J'ai des tocs, épouvantables les tocs en ce moment.
Mia, je comprends que vous parliez du syndrome de Diogène, parce que c'est ce par quoi ça se manifeste, mais votre souffrance, c'est avant tout une angoisse massive. C'est ça dont vous souffrez, qui se traduit entre autres par l'impossibilité de se séparer de vos objets, l'impossibilité aussi de faire changer des choses dans votre appartement. Certainement que le changement vous angoisse si on nettoie l'appartement ou si on instaure une autre disposition des objets, ça vous angoisse aussi.
Oui.
Ben oui. Donc c'est de ça dont vous souffrez. Alors pour ceux qui nous écoutent, le CMP, donc c'est un centre médico-psychologique, c'est attenant à des établissements publics et ça peut fonctionner comme un hôpital de jour ou comme en consultation de jour en tout cas.
Oui, parce qu'ils m'ont envoyé aussi pendant un moment dans un groupe où on allait la journée, on parlait, c'est un peu comme un... Enfin, c'était pas un groupe de parole, on nous montrait des photos, on nous posait des questions, il fallait expliquer. Mais c'est comme ça qu'après j'ai atterri chez le psychiatre pour essayer de soigner la peur dans la voiture, mais ça n'a pas marché.
Et comment vous faites avec vos angoisses tous les jours ? Parce que vous dites, vous en avez de nombreuses, donc celles qui sont liées à tous ces objets dont vous ne parvenez pas à vous séparer, elles sont liées aux différentes peurs, aux phobies. Comment vous faites avec autant d'angoisse tous les jours ?
Oh, je sais pas, moi j'ai... J'ai beaucoup d'animaux, donc
oui.
En général, vers les animaux, je suis bien.
Vous avez raison. Contact avec les animaux, c'est des sentiments très apaisants. On le sait, maintenant, en neurosciences, il y a des champs électromagnétiques entre nous et les animaux et des émotions qui passent. C'est vrai que ça apaise beaucoup. Oui.
Et puis dehors aussi, ça apaise beaucoup. C'est par exemple mon activité favorite qui fait rire tout le monde, parce que personne ne veut penser à enlever les ronces, parce qu'on est en agriculture bio, donc on n'a pas le droit de mettre des produits, bien sûr. Donc j'enlève des ronces et des ronces et des ronces et des ronces. Ah, bah j'adore faire ça. Je pourrais faire ça.
Ça vous apaise ?
J'ai l'impression que je pourrais faire ça 300 jours dans l'année. Enfin, ce qui n'est pas le cas, mais je veux dire, bon.
Ça, c'est très apaisant parce que plus vous allez apaiser votre angoisse, moins la tentation extrême de l'accumulation d'objets va se faire. Parce qu'elle est une conséquence directe de votre angoisse.
Ouais.
Donc déjà, toutes les activités...
J'aime beaucoup le cinéma aussi. Oui. Donc je vois beaucoup de DVD, ça me compte beaucoup pour moi.
Les mondes imaginaires, ça vous aide quand vous vous évadez
?
Ben oui.
Ah oui.
Oui.
Et pour... après, si les programmes de radio me plaisent plus, hein, c'est la cata. Mais la cata en vrai, hein, c'est-à-dire que je me sens pas bien.
Oui, ben oui. Mais en fait, ça fait comme les objets dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Au fond, tout ce qui vous entoure dans votre vie, c'est comme si vous en faisiez une partie de vous-même pour vous rassurer, vous sécuriser. Donc chaque fois qu'il y a une séparation ou un déplacement, ça vous angoisse, comme si vous étiez morcelé.
Ouais.
Et vous dites que le psychiatre ne vous a pas aidé. Qu'est-ce qu'il a tenté pour vous aider ?
Mais c'est-à-dire que c'était axé sur la voiture. Ah, parce que c'est dans ce groupe que j'allais. Il y avait une fille avec qui, d'ailleurs, c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle m'avait bouleversée, cette femme.
Oui.
Cette jeune femme. Et elle voulait absolument qu'on me soigne. Je pense que c'est le fait qu'elle voulait s'occuper de moi qui m'a tellement touchée. Enfin bon, je ne vais pas parler de ces problèmes-là, elle m'en avait pourtant beaucoup. Hein. Et donc, il faisait l'EFT, ce monsieur. Voyez
oui, oui.
Mais en même temps, ce qui s'est passé dans les séances, c'est incroyable. Quoi. Il m'a fait venir des images dans la tête, mais ouh, de cinéma, justement,
oui.
Mais qui était en rapport avec la mort de ma mère, en fait, je ne m'en rendais même pas compte. Et de films qui m'ont toujours bouleversée, je ne m'étais jamais rendu compte pourquoi, en fait.
Et ça vous a aidé, ça, ce travail sur les images ?
Bah, au début, j'ai reconduit. C'est vrai que j'ai reconduit un peu, mais jamais à fond. Quoi. Parce que, par exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai développé des peurs paniques dans les côtes. Mais vraiment, des paniques. Hein. Je sors de la voiture. Et... Même une fois, j'ai laissé le camion aller dans le décor. Hein. Je suis descendue, j'ai sauté. Hein.
Oui, c'est vraiment l'attaque de panique au sens où elle est insurmontable à ce moment-là.
Ah bah, affreux. Je ne sais pas.
Oui.
Donc du coup, bah, je ne conduis plus maintenant. J'ai relaissé tomber. Bah, d'abord, c'était avant le décès de mon père. Donc après, bah, ça a tout refoutu à l'arrêt. Quoi.
Et là, au moment du décès de votre père, voilà, vous nous l'avez dit, tout s'est radicalisé.
Ouais. Oui. Mais là, le docteur, je vais le revoir, le psychiatre. J'ai un rendez-vous en août. Parce que depuis, du fait de tout ça, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais l'infirmière psychiatrique que je vois, elle veut faire un dossier en invalidité, quoi, donc je ne peux plus rien faire, il ne faut pas grand-chose. Bah, pour ça, il faut passer dans le psychiatre.
Écoutez, un dossier en invalidité, pourquoi pas, si ça favorise votre vie pratique et que ça vous permette, dans les moments où vous n'êtes pas à même de travailler, de vous reposer. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est vous alléger de l'angoisse massive qui est la vôtre et qui se décline de beaucoup de manières.
Ah oui, c'est... Premier coup qu'elle m'a dit ça m'a fait pleurer. J'ai dit, bah alors, ça y est, vous avez renoncé à me soigner, que je lui ai dit.
Oui.
Je ne vais pas m'en sortir, quoi, que je lui ai dit.
Et le psychiatre, vous lui avez expliqué la quantité d'angoisse à laquelle vous faites face ?
Non, parce que c'était avant que je dise ce que j'avais dit aux jeunes, ça. Puis je vous dis, il m'a vu, il faisait des séances de EFT, c'était 3 séances ou 5, je crois, suivant les cas. C'était vraiment axé sur la voiture,
les
crises de panique dans la voiture.
Oui, mais ça, je pense que c'est un symptôme qui est important, qui est invalidant, mais ce n'est pas la cause. Vous avez une angoisse fondamentale. Alors, bon, c'est toujours difficile parce que la question des causes, c'est des choses profondes et complexes. Mais ce qui me semble, c'est que à travers l'enfance tellement difficile que vous avez eue, vous n'avez pas pu prendre de repères solides parce que vous avez perdu votre maman biologique, vous avez perdu celle que vous aviez choisie comme maman adoptive parce que un parent peut adopter un enfant, mais un enfant adopte un parent. Oui, ben oui. Donc vous n'avez pas pu trouver votre repère dans cette relation-là. Votre père, comme vous le dites, c'est votre père, il n'était pas absent, mais il n'était pas à même d'être avec vous dans une fonction protectrice et dans une fonction de pilier extrêmement solide, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soit auprès de vous. Bon, la question des belles-mères et de l'atmosphère familiale l'a empêché par moments d'être radicalement auprès de vous et de vous protéger. Quand vous êtes parti, par exemple. Donc, oui. Bon, sans développer plus que ça, parce que ça, ce serait le travail d'une thérapie, cette absence de repères dans votre histoire a créé, mais il y a une fragilité dans votre structure psychique. Et cette fragilité se traduit par des angoisses massives et a pour conséquence des symptômes, dont celui de traiter les objets comme une partie propre de vous et comme un environnement familier dont vous ne pouvez pas vous passer, qui ne doit pas bouger. Cette angoisse, elle se traduit aussi par vos phobies, par vos attaques de panique. Donc, je pense que pour vous, pour que les choses bougent, y compris le syndrome de Diogène qui fait partie du tableau, il s'agit de traiter par des molécules l'angoisse dont vous souffrez, parce qu'il y a des traitements pour ça. On ne peut pas vous laisser dans un état d'angoisse pareil. Et si l'angoisse est traitée, il y a forte chance que ça atténue le syndrome de Diogène aussi. Donc je pense que c'est essentiel que vous expliquiez à votre psychiatre à quel point vous êtes accablé d'angoisse sous des formes différentes. Ça, c'est important qu'il l'entende. Et si jamais il ne l'entend pas et que lui, il garde l'angle uniquement de la phobie de voiture, il faut que vous demandiez à voir quelqu'un d'autre au CMP. Mais c'est important que ça soit entendu, ça, et que votre angoisse soit traitée. Bon, il y a différentes molécules. Le travail d'un psychiatre, c'est de vous écouter attentivement, de se faire une idée sur la cause de l'angoisse, se faire une idée sur votre structure psychique, et à partir de là, de vous prescrire les molécules qui peuvent vous alléger. Et à côté de ça...
Il me l'a proposé, mais j'ai pas voulu. Moi, je veux pas prendre de drogue, alors j'ai
mais
pas
pris. C'est pas des drogues. Ce sont des... Vous savez, sont pas des drogues au sens où ça vous rendrait dépendant et ça changerait votre personnalité. Ce sont des molécules qui, aujourd'hui, avec les progrès qui sont faits, arrivent à cibler de plus en plus précisément l'angoisse. Alors parfois, il faut être un peu patient parce qu'on essaie une molécule sur une personne et ensuite, il faut le retour d'expérience. Il faut qu'elle dise ce que ça lui fait pour pouvoir s'assurer que c'est la bonne et pouvoir faire les bons dosages. Mais ces molécules, ce n'est pas de la drogue, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour être allégé de cette angoisse. Et si l'angoisse s'allège, le syndrome de Diogène va s'alléger, les phobies aussi. Ça, c'est central. Je pense que vous ne pouvez pas vous en passer d'un traitement. Surtout si un... Bon, ça, je vous le dis sans vous connaître, donc c'est toujours une hypothèse. Mais si un psychiatre vous le dit, il faut l'écouter. Et par ailleurs, je pense que vous avez aussi besoin d'une thérapie par la parole, parce que il y a encore en vous une part de l'enfant livrée à elle-même. Et je pense que vous avez besoin d'un lien de parole, d'abord qui vous aide à vous connaître, à vous repérer dans tout ce qui vous arrive, qui vous permette aussi de vous repérer dans un lien qui soit stable et dans lequel il puisse y avoir une forme d'amour. Vous savez, en thérapie, c'est pas le même amour que dans la vie. Avec un thérapeute, c'est pas un amour qui rend dépendant. Et vous, de votre côté, c'est un amour qui ne vous met pas en dette, qui ne vous crée pas d'obligation, mais c'est un amour aussi. Et ça crée un repère. Donc je pense que pour vous, l'idéal, ça serait...
C'est ce que j'ai en ce moment au CMP, parce que j'ai un rendez-vous par semaine.
Et comment vous vous sentez avec la personne? Donc c'est pas la même... vous avez bien d'un côté un psychiatre, comme on fait en CMP. Hein. Vous avez d'un côté votre psychiatre et de l'autre la psychologue pour la relation par la parole, c'est bien ça.
Et puis l'infirmière psychiatrique. Un coup l'infirmière psychiatrique, la semaine d'après la psychologue et ainsi de suite.
D'accord. Et avec votre psychologue, comment est la relation? Est-ce que vous y trouvez...
Ah bah super.
Ah, donc ça c'est très bien, c'est très bien.
Super. Bon, par contre, avec l'infirmière, comme je disais à votre collègue là, quand elle m'a appelée, j'aime pas bien cracher dans la soupe, parce qu'au début, moi, que je suis allée au CMP, c'était même pas par rapport à mes problèmes, c'est par rapport à la ferme, parce que c'est mon mari qui avait disjoncté à ce moment-là. Oui. C'est une dame qui était venue, mais pour... qui travaille dans un organisme agricole, qui me disait, vous savez, vous pouvez t'aider. Donc bref, j'ai atterri là-bas par la de la MSA, l'assistante sociale de la MSA. Voilà.
Oui, oui.
Mais au début, je parlais que de la ferme, les problèmes de ferme, puisque on a subi un très gros problème en 2012-2013, c'était les années noires. Là. Et puis mon mari, il avait complètement disjoncté, il était devenu fou. Mais vraiment fou. Hein.
C'est-à-dire
Tout cassé.
Il a perdu pied, c'est ça? Il a été submergé. C'était trop.
Puis donc... Moi, j'estime qu'elle m'a sauvé. Elle nous a sauvé la vie.
Oui.
Bon, mon mari, l'assistante sociale de la MSA, elle est arrivée à le faire aller au CMP, mais lui, c'est un paysan. Ça, il va pas dans la tête faire ça. Quoi. Il y est allé quelques fois, puis il a laissé tomber. Quoi.
Dans là, je pense que il faut que votre mari comprenne que c'est pas un problème de rangement, c'est pas un problème de d'effondrement qui sort de nulle part. Il faut qu'il comprenne que vous avez une angoisse massive qui vient des douleurs de votre histoire. Et que le reste est une conséquence. Ça, c'est important qu'il le comprenne. Et que dès lors, vous puissiez traiter avant tout cette angoisse, en parler avec le psychiatre, surtout continuer votre relation par la parole avec la psychologue si vous avez ce lien qui se passe bien. Ça crée de la stabilité et du repère dans votre vie. Et entre ce lien de parole et l'aide de la molécule adaptée, vous pouvez vraiment déjà être beaucoup soulagé. Alors ça ne va peut-être pas disparaître, mais l'important pour vous, vous avez le droit de continuer à garder des objets MIA. L'important, c'est que ça rentre dans une mesure qui soit supportable, qui soit vivable.
Voilà.
Alors il y a énormément de messages de soutien, alors je ne les lis pas tous parce que chacun prend un angle différent, parce que ce que vous nous dites est très riche. Donc Laurence vous parle des crises d'angoisse qui font très mal, pour laquelle il s'agit de prendre des traitements, donc beaucoup de compassion pour ceux qui ont l'expérience de l'angoisse. Alors les caresses aux animaux qui sont également soutenues par Stéphane. Cathy qui dit que vous êtes dans une grande souffrance, que vous n'avez aucune aide de la famille, qu'il faut l'aide de professionnels, donc là aussi ça soutient votre thérapie. Jacques qui dit « Mia, vous rendre compte et accepter votre syndrome est un premier pas vers sa résolution, il faut une aide, un soutien, un suivi avant de reprendre le dessus et de retrouver un bien-être, bon courage à vous ». Donc là aussi, Jacques dit qu'il s'agit d'accepter qu'il y a quelque chose de l'ordre du symptôme. Donc voilà, et d'accepter d'être soigné. Et Isabelle, beaucoup de courage à cette dame. Bon, elle propose des méthodes de tri et elle dit « Vous avez l'air tellement mal, il faut faire quelque chose ». Donc il y a beaucoup de compréhension de la part des auditeurs. Donc certains vont être sensibles à votre angoisse, d'autres à votre détresse, d'autres à votre solitude familiale, d'autres au courage dont vous avez besoin. Mais je pense que c'est important que vous ayez l'idée qu'il y a des traitements. Il y a des traitements pour l'angoisse dont vous souffrez. Et que vous ayez l'idée, bon, vous allez l'affiner dans votre thérapie, peut-être la psychologue reprend ça, mais que ça vient probablement de cette difficulté à prendre des repères stables, donc dans la relation paternelle, dans la relation maternelle, bon, qui n'ont pas le même rôle, mais sans repères, personne ne peut se structurer sans faille. Vous voyez ?
Oui.
Mais il y a des solutions, ça peut être long. Mais en tout cas, vraiment là, il ne faut pas avoir peur du traitement de la molécule adaptée pour vous.
Oui.
Mais Mia, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles.
D'accord.
Voilà, je vous remercie de votre confiance. Vous nous avez dit des choses personnelles. Vous avez eu le courage de parler de beaucoup de choses. Et aussi de soulever des choses difficiles. Donc vraiment, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup.
Merci.
Voilà, je vous embrasse, Mia.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Sabine Caligari sur RTL. Parlons-nous.